Dimanche dernier, nous nous sommes rappelés que la bonne nouvelle, l'évangile, pouvait être exprimée en trois mots, trois simples mots. Dieu aime l'homme. Nous avions aussi réfléchi au fait que les hommes se fermaient à cet amour ou l'ignoraient tout simplement et restaient dès lors prisonniers de leurs ténèbres, dit Jésus, et ne venaient pas à la lumière de l'amour de Dieu. Alors au travers du petit résumé que je viens de faire, une question devrait s'imposer à nous, du moins me semble-t-il. Comment faire pour que les hommes et les femmes qui nous entourent apprennent, soient mis au courant, que Dieu les aime? Alors c'est là que Dieu, comme souvent, pour ne pas dire toujours, surprend tout le monde, nous en premier, puisque le moyen en question, l'outil de la révélation de son amour, ce sont d'autres hommes et femmes qui constituent son Église. Pour faire simple, il a créé en quelque sorte l'Église pour ça, pour l'aimer en tant que famille et agrandir cette famille. Dieu aime les grandes familles. Alors vous me direz peut-être que c'est un pari complètement fou et je suis bien d'accord avec ça. Parce qu'après tout, il compte sur moi pour partager sa bonne nouvelle, pour dire l'amour de Dieu au monde. Mais quand on y réfléchit, l'Évangile lui-même, son message n'est-il pas déjà une folie furieuse? Vraiment. Vous savez, quand les anges, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est entre autres Pierre et puis d'autres, quand les anges réfléchissent à l'Évangile, à ce que Dieu accomplit à la croix, ils regardent ce plan avec stupéfaction, parce que ce plan est à l'œuvre dans l'Église, qui est le lieu de la proclamation de cet Évangile. Et les anges ont toujours pris part à l'œuvre de Dieu dans ce domaine-là. Et c'est une œuvre qu'ils estiment d'autant plus extraordinaire qu'ils n'en ont pas besoin eux-mêmes. Je ne sais pas si vous savez, mais les anges n'ont pas vraiment besoin d'être sauvés par Dieu. Ils le voient face à face, en temps réel, en permanence. Et c'est pour ça aussi que Jésus ose dire, et je trouve cette phrase extraordinaire, qu'il y a de la joie dans le ciel, que les anges font la nouba dans le ciel chaque fois qu'un homme ou qu'une femme rencontre Dieu et que ce Dieu merveilleux change la vie de cet homme ou de cette femme. Si nous devions donc nommer le plus grand des miracles, et c'est ce que ce chant vient de nous inciter à faire, c'est bien de la conversion qu'il faudrait parler. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-là. Que Dieu donne son Fils sur une croix afin que d'autres hommes puissent l'appeler Père est totalement incompréhensible. Qu'un tel amour puisse exister, aucun être sur cette terre ne peut même l'imaginer et on comprend bien pourquoi. Tout simplement parce que cet amour-là, il n'y a que Dieu qui est capable de le dispenser. Aucun être humain ne possède un amour d'une puissance pareille. Il ne faut donc pas nous étonner trop que par la suite, les événements vont revêtir le même caractère extraordinaire. Dieu a fait de nous ses fils et ses filles et nous a fait membres du corps de son Fils qui est l'Église pour cette mission-là, pour dire à ce monde que Dieu aime, il y a encore beaucoup de places, beaucoup de sièges disponibles autour de la table, du banquet, de mon amour. Nous sommes donc les porteurs de ce message au monde. Et par expérience, je dirais que c'est souvent là que ça s'arrête. On connaît le message. Et ça s'arrête pour la même raison, sans doute, que nous ne parvenons pas, ou très difficilement, à vivre ce commandement d'amour de notre Seigneur, le commandement qui nous a laissé, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On avait un peu parlé dimanche passé. Nous pensons, comme pour l'amour que nous devons dispenser aux autres, ou comme cet évangile que nous devons partager, nous pensons que tout repose sur nous, sur notre capacité d'amour, sur notre capacité à dire le message de l'Évangile. Et dès lors, comme c'est étrange, nous nous sentons incapables. Nous préférons nous taire et garder caché, même si ce n'est pas ce que nous voulons, l'amour de Dieu pour ce pauvre monde. Mais, mes amis, dites-moi où nous sommes allés chercher que nous devions faire ça tout seuls, sans aide. Encore une fois, je pense qu'une lecture trop anthropocentrique, trop centrée sur nous-mêmes, est sans doute à l'origine de cette incompréhension, de ce malaise que nous éprouvons. Nous nous mettons au centre de tout ce que nous lisons dans la Bible, parce que tout simplement, nous nous mettons au centre de tout dans nos vies aussi, sans nous rendre compte qu'en faisant cela, nous oublions que c'est Dieu qui veut opérer toutes choses. Et nous revoilà à la lecture de certains passages où nous demandons de partager notre foi, en train de nous dire « Je, et c'est bien ça le problème, je n'y arriverai pas, vous n'y arriverez pas, je valide ça. » C'est là que vous commencez déjà à respirer un peu mieux normalement. Et c'est alors que malgré parfois notre peu de connaissances bibliques, il y a quand même d'autres textes de la Bible qui vont venir nous effleurer, nous venir à l'esprit. Comme celui-ci, par exemple, j'aurais pu en prendre des dizaines. C'est Paul qui parle dans sa lettre à l'église de Rome. « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif, donc de tous les hommes, en fait. Hein, parce qu'à l'époque, il n'y a pas une plus grande distance culturelle qu'entre un païen ou un grec et un juif. Irréconciliable, sauf dans l'amour de Dieu et dans l'Église. » Et alors quand on est confronté à cette phrase que Paul nous dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas honte de proclamer cette bonne nouvelle au monde, j'y ai consacré toute mon existence », nous en revanche, quand on lit ça, nous nous sentons d'autant plus envahis par la honte de n'être pas capable d'ouvrir la bouche. Trop axé sur nous, nous sommes, aurait dit Maître Yoda. Oui, il faut des références quand même un petit peu, les gars. Car mes amis, dans ce que Paul dit ici, quel est le mot important dans ce passage? Ben, c'est le mot puissance. Et de quelle puissance parle-t-on? De notre puissance, sans blague. Quelle puissance on pourrait bien avoir? Bien sûr que non, Paul parle de la puissance de Dieu. Ce n'est pas de notre capacité à dire l'évangile dont Paul parle ici, mais de la puissance de Dieu à l'œuvre au travers du message de l'évangile. Quel est donc ce message? On l'a assez dit dimanche passé. De quelle nature est cette puissance? Ben, le message est Dieu vous aime, et la puissance, celle de l'amour de Dieu à l'œuvre. C'est pour cela que nous n'avons pas annoncé une mauvaise nouvelle, mais une bonne. Qu'est-ce qu'il y a comme mauvaise nouvelle à dire que Dieu aime? C'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas envie d'annoncer des bonnes nouvelles, vous? Si elle est vraiment nouvelle, et si elle est vraiment bonne. Dieu t'aime, cher voisin. Dieu t'aime, cher collègue. Dieu t'aime, cher ami. Là où l'amour de Dieu est vivant, là où un chrétien a compris que Dieu l'aime, là aussi la parole de Dieu, au travers de la parole de cet homme ou de cette femme, devient vivante. Parce que ce chrétien ou cette chrétienne est alimentée par l'amour que Dieu a pour lui ou pour elle. Il faut donc comprendre que Dieu nous aime. À ma connaissance, on commence toujours par respirer avant d'apprendre à parler. Ça va, ça descend, commencez un peu à comprendre. Ne me dites pas oui pour me faire plaisir. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais l'ennemi de nos âmes, et nous aussi d'ailleurs, nous connaît bien. Et les fragilités, et les blessures narcissiques du manque d'amour envers nous-mêmes et toutes les ténèbres du dedans qui nous encombrent encore aussi. Ce processus de dénigrement qui nous fait toujours nous arrêter sur nous-mêmes en pensant que cette confrontation sera salutaire pour nous est à l'œuvre parce que nous nous écoutons, nous, ou ce que notre nature comprend, et ici, dans le cas ici précis, comprend de la parole de Dieu, mais en fait, nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Nous n'écoutons pas ce que Dieu dit de nous, de son amour pour nous. Nous devons placer notre confiance dans ce que Dieu dit de nous, pas en ce que nous pensons, alimenté par notre faiblesse. Le souci, mes amis, c'est que notre ancienne nature ne veut rien savoir de Dieu et de son amour. C'est pour ça que lorsque nous sommes invités à être honnêtes envers Dieu et nous-mêmes concernant les ombres qui nous habitent encore, nous ne devons jamais oublier de nous placer sous la bannière de l'amour de Dieu pour nous. Nous ne devons jamais oublier de l'emmener avec nous toujours, partout et certainement lorsque nous confessons nos faiblesses à celui qui nous aime d'un amour d'une telle profondeur. Dans ces moments-là, on ne voit que soi et ce qu'on a mal fait, ce qu'on a mal dit, les bêtises qu'on a pu faire, et on zappe totalement l'amour que Dieu a pour nous. C'est Jésus qui parle ici, dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit Saint vous annoncera ce qui concerne Jésus. Et nous pourrons dès lors, nous aussi, annoncer. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus était seul pour dire Dieu, pour dire l'Évangile quand il était parmi nous. Il était tout seul. Et voilà que depuis la Pentecôte, depuis le don de l'Esprit, il y a des millions, à mon avis, quand je dis des millions, je suis en dessous de la vérité, hein. Il y a des millions de frères et sœurs qui sont aussi devenus capables de le faire, de proclamer cet évangile. Ah oui, j'ai bien dit capable. Alors pourquoi est-ce que je suis capable? Parce que c'est moi? Parce que je m'appelle Pierre, Paul ou Jacques? Non, parce que le Saint-Esprit est en moi. C'est ça qui me rend capable. Et que Dieu me l'a donné pour que je grandisse en son amour et à sa ressemblance. Et pour que je puisse être l'évangile avant même de devoir le dire. Pour le dire autrement, je pense que les hommes et les femmes qui nous entourent n'ont pas grand-chose, n'ont pas beaucoup d'intérêt à ce que vous risquez de leur dire au sujet de Dieu. Par contre, dans un premier temps, vous montrer digne de son amour et leur montrer que l'amour de Dieu est une réalité bien vivante en vous, ça par contre, en fait vivre comme Dieu demande de vivre, ça par contre, ça peut potentiellement être porteur. Alors comment est-ce que je peux être porteur de cet amour? On l'a déjà dit, je pense, hein, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'amour de Dieu. Mais vous doutez peut-être encore un peu de ça, parce que vous vivez ce que vous vivez, vous ressentez ce que vous ressentez. Alors je vais prendre l'exemple de Pierre, le pauvre Pierre, hein, qu'est-ce qu'on tape sur sa tête ces derniers temps. Prenons donc l'exemple de Pierre, le grand Pierre. En l'espace de quelques jours, il va passer, je passe à la... Ça, je parle de sa trahison, entre guillemets. En l'espace de quelques jours, il va passer d'un homme brisé par la confrontation entre ce qu'il pensait être et ce qu'il était vraiment, d'un homme ayant une haute opinion de lui-même à la réalité qu'il manque de courage, et dès lors, ses illusions sur lui-même étant perdues, d'un poltron à un proclamateur téméraire de l'Évangile, n'ayant plus peur de rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments, entre le moment où son identité fausse collapse complètement et le moment où la véritable identité de Pierre émerge? Il s'est passé quoi entre ces deux moments? Pas grand-chose, hein? Deux peccadilles. La première, c'est que Pierre a été pardonné. C'est comme si Dieu lui avait dit... Pierre, toi, tu ne savais pas que tu étais un pêcheur complètement à côté de tes pompes, mais moi, je le sais depuis le début. Et je voudrais vraiment que l'on comprenne ça, ce que ça signifie être pardonné, parce qu'accessoirement, nous le sommes tous. Hein. Lorsque Jésus confronte par trois fois Pierre au sujet de son amour, hein, de son échec à l'aimer, rappelez-vous, hein, la finale de l'évangile de Jean, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Oui, Seigneur. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais tu sais bien, oui, je t'aime. Enfin. À travers cette séquence, Jésus lui apprend en fait qu'il ne doit plus compter sur son amour à lui pour accomplir quoi que ce soit, ou simplement être quoi que ce soit, mais uniquement compter sur l'amour de Jésus pour lui. Il renverse la table, Jésus. Arrêtez de prétendre m'aimer suffisamment pour pouvoir faire quoi que ce soit en mon nom. Laissez-vous aimer par moi. Donc, je reviens au pardon. Chaque fois que Dieu pardonne, et mes amis, c'est tous les jours, hein, c'est en réalité « je t'aime toujours » qu'il nous dit. Et ça, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de l'entendre tous les jours et d'en être certain. Nous n'avons besoin de rien d'autre que d'être convaincus au plus profond de notre être que Dieu nous aime. Qu'un enfant doute une seule seconde de l'amour de ses parents et il va en souffrir toute sa vie durant. Mais mes amis, dans la relation à Dieu, c'est exactement la même chose. Ça ne fonctionne pas dans nos vies parce que nous doutons encore et toujours de l'amour de Dieu. Rappelez-vous, on peut exprimer le doute de mille manières différentes, mais quand on doute de Dieu, c'est toujours de son amour dont on doute, et de rien d'autre. Jésus ne voulait pas que Pierre, son ami Pierre, puisse imaginer un seul instant que son père et lui ne l'aimaient plus parce qu'il avait échoué à l'examen qu'il s'était lui-même imposé. Dans quel film est-ce que Jésus lui a demandé à Pierre de proclamer qu'il aimait Jésus plus fort que les autres disciples ? Ben, Jésus n'a jamais demandé ça. Pierre s'est imposé ça. Parce que c'était sa nature profonde d'être meilleur que les autres. Seulement, il n'était pas meilleur que les autres. Aucun d'entre nous n'est meilleur que son voisin. En fait, nous devons comprendre que nous devons échouer à ces examens basés sur nos propres mérites pour que Dieu puisse prendre la place qui lui revient dans nos vies et agir à travers nous. La certitude de l'amour indéfectible de Dieu, voilà la première chose dont Pierre avait besoin, le premier axe de sa transformation profonde. La seconde chose qui lui est arrivée, en plus d'être pardonné, c'est aussi une peccadille, c'est le Saint-Esprit. Avoir en permanence Jésus, non pas avec lui, mais en lui. Oui, ça aussi, je sais bien, ça nous dépasse, qu'on a Dieu en nous. Moi, ça me dépasse tout autant. Mais c'est une réalité que j'acquire par la foi. C'est ce même amour qui a bouleversé Pierre, qui a fait de nous, par l'intervention de l'Esprit Saint, des filles et des fils de Dieu. Et c'est cet amour que nous devons d'abord montrer avant de le dire. Nouvelle question qui vient. Je sais bien que vous n'en posez jamais de questions, mais moi je suis câblé comme ça. Alors pourquoi ne le montrons-nous pas plus autour de nous, ce fameux amour ? À commencer à ceux qui vivent sous le même toit que nous. On va pas, avant de commencer à proclamer ça à la terre entière, comment est-ce que je proclame ça à ma femme, à mon mari, à mes enfants, à mon chien, si j'en ai un ? Les chats laissés tomber, ça ne sert à rien. Donner une baballe et ils feront leur journée avec. Les chats, c'est foutu, c'est peine perdue. Je répète encore une fois, parce que c'était ma thèse en théologie, il n'y avait pas de chat dans l'arche de Noé. Je vous laisse avec... Il y en a comme un qui montait à bord et c'était l'occasion de s'en débarrasser. Eh bien non ! Donc j'ai rien contre les chats, bien entendu, vous savez très bien. Donc comme... Je fais respirer un petit peu. Comme j'ai tenté de le dire, je crois que la raison principale pour laquelle nous avons du mal à partager l'amour de Dieu pour nous, et que nous ne sommes pas suffisamment conscients nous-mêmes que Dieu veut que nous témoignions de cet amour dont il nous aime, car je pense tout simplement que c'est difficile si nous ne sommes pas nous-mêmes enracinés dans la certitude de cet amour. Amen. Merci, tu les as tous réveillés. Moi, je ne savais plus comment faire. On peut être un bon vendeur d'aspirateurs sans même en avoir un soi-même. Mais l'on sera d'autant plus convaincant si l'on passe l'aspirateur depuis des années tous les jours. La preuve historique et ultime plantée dans l'histoire de l'homme de l'amour de Dieu pour le monde, et elle est bien réelle, cette preuve, c'est la croix. Mais ce sens-là, cette vérité-là, la plus grande qu'il ait été donné à l'homme de connaître, cette vérité, peu d'hommes y auront accès. Tant que des hommes et des femmes au bénéfice de ce même amour ne le montreront pas, n'en parleront pas. Nous sommes donc chacun en quelque sorte une maison témoin, que l'on doit pouvoir visiter 24 heures sur 24, et pas, parce que je pense que certains n'ont pas compris ça, et pas des camelots sur un marché supposé vendre une marchandise à coups d'arguments creux dont ils ne sauraient rien et dont ils n'auraient dès lors, en fait, rien à dire. Nous fêterons bientôt la Pentecôte, donc le don de l'Esprit Saint. Quel est le rôle de l'Esprit dans tout ça, dans cette proclamation de l'amour de Dieu ? Alors, peut-être que pour nous faire respirer encore un peu plus davantage, on va relire cette parole de Jésus à ses disciples. Parce qu'ils étaient comme nous, hein, ils paniquaient un peu à l'idée de devoir évangéliser le monde. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce que vous avez à dire. Contentez-vous d'apprendre à vous laisser aimer par Dieu et le reste viendra. Parce qu'il n'a pas donné le Saint-Esprit pour faire décoratif. Rendre notre témoignage de vie parlant et donner vie à nos paroles, ça c'est le boulot de l'Esprit-Saint. Que notre chambre secrète, celle dont parle si joliment Jésus, celle où Dieu habite en nous, nous puissions la faire visiter, cette chambre. Je ne sais pas si vous connaissez David Wilkerson. Là, il a déjà un certain âge, hein. David Wilkerson était un pasteur qui vivait dans la campagne, quelque part aux États-Unis. Il avait une petite paroisse, toute mignonnette, en dessous des arbres, j'imagine, avec des paroissiens bien gentils, enfin, dans la campagne américaine. Je ne suis pas sûr qu'ils soient bien gentils, surtout c'est au Texas, mais enfin, soit. En tout cas, il ne s'attendait pas à ce que Dieu lui demande de quitter sa petite église dans la prairie pour s'en aller à New York. On est dans les années 50, hein. Pour parler de l'amour de Dieu au plus dangereux chef de gang de la ville. Ça, c'est un chouette appel, ça. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et lors de leur première rencontre, Nicky Cruz, donc l'homme à qui il était venu parler, l'a battu comme plâtre. Et alors qu'il le frappait encore et encore, David ne cessait de dire à Nicky, « Tu peux me frapper autant que tu veux, tu peux même me couper en morceaux, tant que j'aurai un souffle de vie, chaque morceau te dira que Dieu t'aime. » Alors Nicky Cruz s'est ouvert à cet amour, et depuis, comme c'est étrange, il parcourt le monde pour proclamer ce même message, « Dieu vous aime. » Le rôle de l'Esprit-Saint est de rendre, avec notre participation volontaire, notre vie lisible. Nous sommes appelés à devenir des livres ouverts dont le titre est « Dieu t'aime » et le sous-titre « Une vie pour te le dire, la mienne ». Vous ne ferez jamais rien de plus important que ça. C'est pour ça que vous êtes là. C'est l'œuvre d'une vie, la vôtre. Et une vie telle que celle-là ne nécessite qu'une seule chose. Comprendre que Dieu vous a aimé, qu'il vous aime et qu'il vous aimera toujours. Quoi que vous fassiez, pensez. J'ai déjà souvent dit ça, vous savez bien, en étant un peu provocateur, encore une fois, c'est étrange. Il sait très bien, vous savez, qu'il n'est aimé que par des andouilles. Hein. Il est au courant, hein, que nous sommes tous à côté de nos pompes la plupart du temps. Il sait bien, vous savez. C'est son choix. Moi, ça me dépasse, mais si j'avais dû choisir des adorateurs, ben, enfin, je serais tout seul, en fait. C'est pour ça que vous pouvez dire aussi « Je t'aime à Dieu ». Et pas vous dire oh, « Je ne suis pas digne de lui dire parce que j'ai fait ça ». Encore une fois, il sait très bien. C'est ce dont parle Paul, ce grand théologien, de plus en plus incompréhensible au commun des mortels. Voilà ce que dit Paul. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, donc pour avoir peur de Dieu, qui nous verrait que comme des esclaves asservis et dociles, mais vous avez reçu un esprit, avec un E majuscule, donc l'Esprit Saint, un esprit d'adoption qui a fait de vous des enfants et des enfants de Dieu adoptés. Pourquoi adoptés ? Ça ne vous aura pas échappé, parce que vous n'êtes pas de la même nature que Dieu. Il n'a qu'un fils engendré, c'est le Christ, parce qu'il est de la même nature que lui. Nous sommes adoptés, nous ne sommes pas encore de la même nature que lui. Esprit par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa » en araméen. Vous pouvez dire « Papa » à Dieu, c'est extraordinaire ça quand même. Et Paul continue, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors pour bien comprendre, et ça c'est ce qu'on ne fait pas souvent, pour bien comprendre la profondeur de ce que Paul dit ici, il faut le relier au chapitre 7 de cette même lettre, où il confesse en gros être quoi ? C'est pourtant Paul, hein, un misérable pécheur. Et comment est-ce qu'il définit ça, qu'il est un misérable pécheur ? Très simplement, il dit qu'il n'en peut plus. Deuxième service. Il dit en fait qu'il n'en peut plus de faire ce que Dieu ne veut pas et de ne pas faire ce que Dieu veut. Alors que c'est ce que Paul veut. Il veut faire ce que Dieu dit et il fait ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Autrement dit, l'apôtre Paul se sait lui aussi perdu au milieu de ce combat intérieur. Heureusement pour lui, et c'est là pour ça qu'il écrit Romains 8, heureusement pour lui sa boussole intérieure, ce qui le recentrait, ce qui lui permettait de continuer malgré tout avec une ardeur toujours renouvelée, de ne pas désespérer outre mesure de lui-même, c'est qu'il se savait être un enfant de Dieu aimé et pardonné quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là, hein, à titre personnel. Donc le changement intérieur véritable s'opère vraiment lorsque nous baissons les armes face à l'amour de Dieu. Laissons-nous aimer. Paul a compris la chose fondamentale et essentielle à toute transformation. Chaque fois que je demande pardon à Dieu et que je suis mangé par la culpabilité, Dieu me dit, tout comme il l'a dit à son fils aîné, mon Seigneur, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, et j'ai mis en toi tout mon amour. Vous pouvez vous approprier cette phrase où le Père dit cela de son fils, de Jésus, parce que vous êtes ses fils et ses filles. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Si, si, ça il faut le revendiquer. Je suis le fils bien-aimé de Dieu, en qui il a mis tout son amour. Dandinakas, comme on dit à Bruxelles. Cette prise de conscience, nous dit Paul, est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tous les jours, au moment où votre réveil sonne le matin, le premier truc qu'il vous envoie, c'est « Dieu t'aime ». Dans nos temps de prière, d'intimité avec notre Père, nous devons encore et toujours nous rappeler que nous sommes ses enfants, et que d'autres enfants, qu'ils désirent adopter aussi, attendent que ceux qui le sont déjà en soient convaincus eux-mêmes pour le faire savoir aux autres. Pour le dire plus simplement encore, vous ne parlerez jamais de l'amour de Dieu si vous n'êtes pas convaincu qu'il vous aime. La prise de conscience au quotidien que nous sommes pécheurs, cette honnêteté, cette sincérité envers vous-même et envers Dieu occulte encore trop souvent que malgré tout, quoi qu'il arrive, nous sommes aimés de notre Père. Et moi je prie pour que chaque fois que nous nous sentons nuls, indignes, pécheurs, nous nous tournions vers Dieu pour qu'il puisse nous redire la vérité à notre sujet. Tu es mon fils, tu es ma fille et je t'aime. Qu'à chaque fois que je confesse mes manquements, je puisse prendre conscience que c'est la Trinité qui est présente avec moi. Le Saint-Esprit, en rendant ma confession juste devant Dieu, en faisant la part de ce qui est encore de moi dans ma confession et en redisant au Père l'œuvre que lui, le Saint-Esprit, est en train d'accomplir en moi. Puis il y a notre Seigneur Jésus aussi, qui entend cette prière de l'Esprit à la droite de Dieu et qui la relaie, comme tout bon frère aîné qui intercède auprès du Père pour les bêtises perpétrées par ses plus jeunes frères et sœurs. C'est à ça que sert un frère aîné. Et enfin le Père, bien entendu, qui se réjouit, comme le Père de la parabole du Fils prodigue, de voir ses fils et ses filles cadets venir vers lui, le cœur plein de larmes, parce qu'ils ont encore fait ce qu'il ne fallait pas. Et je pense vraiment, profondément, qu'en ces moments-là, Dieu notre Père se dit en nous regardant qu'il a vraiment et décidément une belle et grande famille, et qu'il y a encore de la place pour beaucoup d'autres. Mes amis, le seul signe que possède l'Église, le seul qui puisse accompagner son témoignage, ce ne sont pas les miracles, même si Dieu en fait encore. Ce ne sont pas les guérisons miraculeuses, même si Dieu guérit encore. Le seul signe, c'est son amour qu'il a placé en nous. C'est cet amour qui nous fait vivre et que nous devons partager. Et à cela, le monde verra que Dieu existe et que ce Dieu aime l'homme. C'est en nous sachant aimer profondément que l'on pourra aimer à notre tour et dire « je t'aime » à quelqu'un d'autre. C'est en cela que Dieu nous guérit, c'est en cela aussi qu'il nous sauve et que chemin faisant, il sauvera l'humanité. Je termine par une petite histoire. Je vais vous demander un effort d'imagination. Pensez que vous pouvez le faire. Vous n'allez pas me dire non, de toute façon. Un homme entièrement fait de sel, si, ça existe, se promenait sur une plage le long de l'océan. C'est alors qu'il entendit une voix lui demander « Qui es-tu ?»« Je suis un homme de sel. Et toi, qui es-tu ? » »« Tu veux connaître la réponse ? Approche. » L'homme s'approcha de l'eau et reposa sa question. « Mais qui es-tu ? » Mais encore une fois, la voix se contenta de répondre « Approche-toi encore. » Et lorsque ses pieds entrèrent en contact avec l'eau, ils commencèrent à se dissoudre. « Qui es-tu ? » redemanda l'homme. Et là encore, la voix répondit « Approche encore. » Et lorsqu'il entra entièrement dans l'eau, il se dissout aussi totalement. C'est alors que la voix lui demanda « Mais qui es-tu ? » Et il répondit « Je suis l'océan. » Pour les traductions, c'est après le culte. Je vois le filet de baffe. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.